monde, spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 85, Christophe Rollin au micro, nous sommes le mercredi, le combien sommes-nous? Le 6 janvier 2015, Gérald est dans la place et je vous souhaite 2015, n'importe quoi 2016, et d'ailleurs je vous souhaite à tous, auditeurs, une heureuse année, une année riche, une année pleine de spectacles et puis pleine de programmes de Radio Canut. Nous avons un invité aujourd'hui, quel invité? Nous sommes absolument ravis, Denis Lavant qui est actuellement sur scène, enfin il est maintenant avec nous dans le studio, mais il est sur scène ces jours-ci au Théâtre des Célestins pour la pièce de mise en scène par Aurore Fatier, une pièce qui est absolument géniale, Elisabeth II. Et donc pour terminer cette présentation, je souhaite seulement dire que voilà, tous les micros sont coupés, on va commencer par écouter un peu de musique, mais je commence seulement par dire parce que voilà, je devais cela à François Bégodeau, quelques excuses, nous l'avions reçu il y a de ça quoi, 2 ans à peu près, je l'avais présenté comme étant une célébrité médiatique et j'avais absolument tort. Non, ni Denis Lavant ni François Bégodeau sont des célébrités médiatiques, ce sont des artistes, enfin du moins des personnes qui ont un talent, qui ont quelque chose et qui ont un propos à tenir. Et ça tombe bien, ils vont en parler pendant, enfin François Bégodeau en a déjà parlé et aujourd'hui Denis Lavant va nous en parler jusqu'à 15h. 14h05, mon Dieu, on a pris un peu de retard, ce n'est pas grave, vous nous écoutez, vous allez d'ailleurs entendre un peu de Général Alcazar, c'est la première piste qu'a préparé Gérald. Voilà, je bredouille beaucoup, pause, et puis ensuite nous démarrons sur cette pièce qui est absolument sidérante, Elisabeth II de Thomas Bernhard. Vous êtes bien sur Radio Canut, le 102.2 de la bande FM, et vous nous écoutez également, si vous le souhaitez, pourquoi pas, sur internet, radiocanut.org.
Så lægger vi lidt guitar på. Så derfor har vi General Alcazar.
Même ceux qui n'ont jamais quitté les limites du village, un jour ou l'autre vont rencontrer le number one. Même ceux qui n'ont jamais franchi la ligne des horizons, un jour ou l'autre vont rencontrer le number one. Celui qui n'a jamais voulu intuition. Un de ces jours vont tomber sur le number one. Pour peu qu'on prenne peur dans le noir ou par pure précaution, nous serons là pour adorer le number one. Number one. Number one.
me semble que tout le monde le sait, que je commets sans arrêt des impairs. Je viens d'en évoquer un avec François Bégodeau, je viens de commettre un autre impair. Gérald accepte mes excuses. Nous aurions dû écouter de Général Alcazar la piste.
Et on a écouté la croisade.
Et en fait, voilà.
Mais c'est pas grave.
Bon, ça n'est pas grave.
Bonjour.
Heureuse année, Gérald.
Heureuse année.
Et puis alors.
Et bonne année alors.
Voilà. Bonjour, Denis Lavant.
Meilleurs vœux. Ah, si on veut, ouais. On va essayer.
Nous vous les souhaitons également à vous. Et donc, pourrions-nous vous poser une sorte de première question qui serait à Gérald, le truc habituel en début d'émission, qu'est-ce qu'on demande à notre invité ?
Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Lyon ?
Avant ça, qui êtes-vous, Denis Lavant ?
Aïe.
Comment êtes-vous venu à ce que vous faites à présent ? Enfin, je ne sais pas, toutes ces choses.
C'est vraiment ça la question.
Ouais, voilà. C'est qui êtes-vous, Denis Lavant ?
Qui suis-je ? Ouais. Mais ça ne va pas suffire une heure pour répondre.
Ouais, mais quelques pistes alors, peut-être.
D'accord. Hein. Alors, disons que je suis danseur classique. J'aurais pu être circassien. J'ai commencé par ça, d'ailleurs. Un petit peu. Et puis finalement, je me suis dirigé, comme dirait Ehrenstein, vers le métier d'histrion.
Et Ehrenstein, c'est votre personnage dans cette pièce.
C'est le personnage, qui lui, justement, aurait voulu être comédien, mais il prétend pas savoir retenir deux mots par cœur. Quoi. Et que surtout que son père, vraiment, n'aurait pas supporté qu'il soit histrion. Quoi. C'était le plus profond mépris. Enfin bref, moi j'ai choisi ça, et puis j'aime bien ce mot en plus. Histrion, quoi.
C'est intéressant.
Et donc, c'est vrai, quand je dis que je suis, excusez-moi, quand je dis que je suis danseur classique, je blague à moitié, quoi. C'est-à-dire, j'aurais pu, pour moi, j'ai une propension à la danse, au mouvement, avant tout, avant le texte. Et c'est curieux, d'autant plus, d'arriver finalement, après une trajectoire de comédien, alors que j'ai essayé de capter, de trouver l'issue du langage par rapport au geste, de joindre le geste à la parole, si vous voulez, et de se retrouver dans une posture comme dans cette pièce, dans Elisabeth II, où effectivement je suis tanké dans un fauteuil roulant pendant 2h30, 2h15.
Aurore Fatil,
un rôle à contre-emploi un peu.
La metteuse, le metteur en scène nous l'a dit hier. Ouais,
à contre-emploi,
c'est compliqué.
Non, un rôle à contrainte. Mais c'est bien, de toute façon c'est ce qu'on aime, les contraintes. Pour pouvoir, c'est là-dedans qu'on peut trouver une liberté d'expression aussi, dans la contrainte. Donc voilà. J'en suis arrivé là, quoi. Je suis de mon état, je me considère comme comédien, pas comme acteur. Le terme d'acteur, j'y répugne un petit peu. Comédien, c'est plus justement de penser, dans mon idée, même si c'est pas exactement défini, au fait d'être un artisan qui va se déplacer vers des personnages à interpréter, ou même des auteurs à interpréter, ou même essayer de se déplacer vers la vision d'un réalisateur, puisqu'il se trouve que j'ai mis aussi les pieds dans le cinéma, un peu malgré moi, mais ça s'est passé comme ça. Et allô ?
Non, interdit.
Et voilà, et j'ai pas coupé mon portable.
C'est pas grave.
Hein, c'est pas grave.
Normalement, il n'y a pas de réseau. Moi, je suis absolument stupéfait.
Carrière ! Pardon ! Ah, j'ai dit le mot fatidique !
Non, je le suppose.
La filmographie.
Votre filmographie s'arrête.
Jean-Claude Carrière, mais.
Dans les années 80.
Le terme de carrière,
très bon
ça m'a
scénariste,
toujours énervé.
À part Jean-Claude Carrière. Alors, on ne va pas parler de carrière du tout.
Un grand homme qui a fréquenté Louise Buñuel, quand même.
Votre filmographie est quand même très impressionnante. Et après, vous passez au théâtre à partir de Shakespeare.
Non, pas du tout.
Vous continuez le cinéma. Vous êtes
J'ai commencé par le théâtre de rue.
Oui.
J'ai commencé par le truc de baladin, quoi. Non, pas le cirque. En fait, j'ai eu un choix, une alternative. En sortant des écoles scolaires, quoi, de la scolarité, j'ai hésité, quoi. J'ai pas hésité longtemps entre faire une école de cirque, parce que j'avais des propensions à ça, ou faire une école ou aller vers le théâtre. Puis j'ai décidé d'aller vers le théâtre, d'essayer d'apprendre l'art dramatique. Ce que je n'ai jamais appris complètement, d'ailleurs, en tout cas pas vraiment dans les écoles, pour être franc. Quoi. Et puis, j'ai commencé à jouer très vite, très très tôt en fait, avec des gens importants, je m'en doutais pas à l'époque, mais avec des gens comme Antoine Vitez.
Par exemple.
Ce n'est pas rien. Quoi. Et à jouer des rôles un peu monstrueux, quoi, des rôles très physiques. Au départ, et puis j'ai commencé à travailler mais très vite, très jeune, à 20, 21 ans, quoi, à avoir une place comme ça, des propositions dans le théâtre. Et c'est là qu'il y a un jeune gars à l'époque qui s'appelle Léo Scarax qui m'est tombé dessus, quoi, qui m'est pas tombé dessus, mais qui m'a rencontré, qui a cherché à me rencontrer, comme d'autres jeunes comédiens à l'époque, je suppose. À l'époque, j'étais au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, n'est-ce pas, à Paris. Et donc, qui m'a passé, mis entre les mains le scénario de Boy Meets Girl. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis entré, finalement, dans le, quoi, que Léos m'a ouvert un peu une porte du cinéma, mais pas n'importe laquelle, vraiment du cinéma poétique, du grand cinéma d'auteur. Et après, je me suis tout de suite un peu méfié de ce monde-là, du cinéma, parce que j'avais pas d'ambition là-dedans. Mon ambition principale, c'était d'être comédien, de théâtre, de jouer au théâtre, c'était vraiment ça. Et j'ai continué, comme ça, ponctuellement, on a fait quand même 3 films, dans les années 80 avec Léos, dont cette galère énorme, épouvantable.
Les Amants du Pont-Neuf.
Exactement.
Dont tout le monde se souvient.
Et puis après, forcément, il y a d'autres gens de cet univers-là qui sont venus me voir. Et ce dont je suis plutôt heureux, c'est-à-dire, je suis jamais, et puis j'ai jamais voulu rentrer non plus dans un cinéma qui soit purement commercial ou de divertissement, comme on dit, et j'ai pas cherché spécialement à tourner non plus, quoi. C'est-à-dire tourner à tout craint, ça m'a jamais intéressé, et je suis toujours revenu au théâtre, parce que pour moi c'est la chose essentielle, et c'est ce qui m'a toujours sauvé la vie et la santé mentale aussi, quoi. C'est le théâtre, c'est un exercice qui est complètement sain, où il y a une très grande responsabilité du comédien. Et cet exercice-là d'être tous les soirs, de recréer la pièce avec le public, avec l'inconnu public qui est avec soi, qui est dans la salle. Et donc c'est quelque chose qui est, c'est un exultoire, c'est un exorcisme, c'est un soin aussi qu'on donne aux autres et qu'on se donne à soi, il me semble.
Du vivant par rapport à la mise en boîte filmique.
Absolument. Et puis c'est clair, il y a une convention qui est très claire, c'est-à-dire une convention, il y a une magie qui se fait au théâtre, mais il y a une complicité avec le public. C'est-à-dire le public, il sait que vous êtes en train de jouer un personnage, il n'est pas dupe, mais il accepte d'y croire, à condition que vous soyez convaincant. Il accepte de croire à ce qu'on lui raconte, même s'il voit très bien que c'est sur scène, que c'est pas pour de vrai du tout, que les histoires, elles sont, c'est la pure fiction. Et la convention est très claire. C'est-à-dire, une fois qu'on sort de scène, on n'est plus le personnage. On redevient un comédien qui a joué un personnage. Alors qu'au cinéma, il y a une très grande ambiguïté, quoi, par rapport à ce qui apparaît sur la pellicule, quoi. Plus de pellicule, mais c'est pas grave. À l'écran, le personnage qu'on incarne, souvent, je m'en suis rendu compte très tôt, il y a une confusion. Les gens, ils croient que vous êtes comme ça. D'ailleurs, à tel point que le premier film, plutôt le second film que j'ai fait avec Léos Carax, celui qui a eu le plus grand succès public, qui a été vu de beaucoup de gens, c'est Mauvais Sang. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissaient pas, qui ont cru que c'était moi. C'est-à-dire que il y avait aucun travail, que j'étais Alex, quoi. En tout cas que Léos m'avait pris comme ça dans la rue, et puis que c'était brut de décoffrage ce que je faisais. Donc après, c'est pour ça que j'ai trouvé ça louche, parce qu'il y a plein de gens, quelques personnes, étant donné le succès du film, du cinéma, qui sont venus me voir, et j'ai très très bien compris qu'ils voulaient pas de moi comme comédien. Il voulait que je fasse le personnage que je faisais dans le film de Léos, que je fasse Alex dans une autre histoire. Moi j'ai dit non. Je me suis efforcé de déboulonner, quoi, toute cette statue là. Enfin, c'est peut-être idiot comme démarche, parce que après j'en suis là, être sur un fauteuil roulant, quoi. Vous voyez, quelle fauteuil.
Tout ce système joue de cette ambiguïté, et Bresson l'avait très bien compris, qu'il voulait jamais faire jouer des acteurs dont on ne voyait plus le personnage incarné, mais l'acteur, justement.
Oui, peut-être.
Parce qu'il jouait qu'avec des acteurs professionnels.
Des acteurs amateurs. Mais moi, je trouve ça très bien. Parce qu'il y a une grande qualité, une grande densité de jeu. Condition d'être bien filmé, bien dirigé. Ouais, mais c'est forcément. Il y a un engagement qui est. Il y a un appétit de jeu, justement, chez les non-professionnels qui est extraordinaire. Voilà.
Et alors, on va pas tout de suite arriver à Elisabeth II, mais moi, j'aimerais évoquer quand même cette chose, c'est que Denis Lavant, je vous avais déjà vu. J'ai encore en main l'objet qui prouve que je vous ai vu le jeudi 15 novembre 2001 à 19h dans la grande salle du théâtre aux 4 places du Général de Gaulle. C'est à Lille. Je vous ai vu dans Ubu Roi.
Ah oui.
Jouer cette pièce de Jarry. Et j'ai cru comprendre par ailleurs, pour avoir lu une préface du livre de Alfred Jarry, Gestes et opinions, ouais, du docteur Faustreau, le pataphysicien. Ouais. Que vous appréciez.
Préface, d'ailleurs, non ?
Oui, c'est ça, ouais. Alors, le bouquin, effectivement, indique préface, mais c'est exact. Vous, à l'intérieur, vous parlez, vous faites
ce jeu de mots,
vous évoquez ce terme-là.
On
peut l'invoquer.
Ouais, mis en scène par Bernard Sobel.
Exactement, c'est ça.
Ce fameux Ubu Roi, ouais.
Ça marche comment, le choix des textes ? Vous venez de parler à l'instant de textes, enfin, du moins, de scénarios que vous avez refusés, enfin, je suppose, pour du cinéma. Vous n'avez pas voulu jouer Alex dans d'autres.
Des pièces aussi.
Et pour des pièces, alors, comment marche celle que vous prenez, c'est vous qui sollicitez des metteurs en scène ou
non,
c'est...
jamais.
Non, jamais.
On vient vous chercher.
Ah, ça pourrait.
Ah oui. Moi, j'ai jamais rien demandé, quoi.
Et pourquoi ça peut vous sembler gênant ou...
Ça se passe comme ça. C'est pas ma manière, en fait. Et puis il se trouve que c'est plutôt de se mettre. Bah, c'est curieux, quoi. C'est un métier de pute, de toute façon, comédien un peu. C'est de se mettre en état d'être désiré, d'être désirable, ou d'attirer l'attention de metteur en scène, mine de rien. Donc c'est une manière de demande, mais qui est pas forcément dirigée. Et j'ai jamais fait la démarche, non, d'aller dire à un metteur en scène, ah ouais, j'aimerais vraiment travailler avec toi. J'ai plutôt l'inverse, c'est d'être à un point, à un endroit, à un lieu, et puis d'attendre la rencontre. Ouais. Et même de pas attendre. Moi, il se trouve, je touche du bois. J'ai eu la chance de jamais avoir eu à attendre quelques rencontres, que ce soit même ce que je disais tout à l'heure. On est venu me chercher alors que je me sentais pas prêt du tout. D'ailleurs, on n'est jamais. C'est pas une chose. Il y a pas un moment donné où on est complètement aguerri à jouer. C'est le fait d'être comédien. Et particulièrement comédien de théâtre, je pense, c'est une suite d'expériences, d'expérimentations, plus ou moins heureuses, avec justement des gens qui posent le regard sur vous et qui vous entraînent dans une histoire. Bon, on est entraînant. Mais ce qui se passe dans la rencontre, hein, avec un texte ou avec un metteur en scène, c'est souvent, il y a des choses, parce que moi, il y a une évidence. On peut comme ça voir des projets défiler et dire bof, ouais. Après, bon, effectivement, il y a la nécessité de gagner sa vie et puis peut-être celle de sa famille aussi,
accessoirement.
Mais c'est quand même le fait d'avoir de l'appétit pour un projet. Et puis aussi de dire, ah oui, ça tombe bien. Alors les premiers projets qu'on m'a proposés, c'était des évidences, si vous voulez. Par exemple, je parlais d'Antoine Vitesse, le premier engagement finalement que j'ai eu au théâtre à Paris. Il est venu me trouver, ou son assistante est venue me trouver, parce que il avait monté un opéra de Monteverdi. L'Orfeo de Monteverdi.
Quel opéra ? C'est le opéra. Voilà, le premier.
Ouais. Et il avait énormément de mal à faire se bouger les chanteurs. Qui depuis ont beaucoup avancé dans le jeu, même plus que les comédiens, je trouve, mais qui avaient tendance à rester tankés comme ça,
statique,
erratique,
hiératique,
ouais, n'est-ce pas, et de balancer le truc. Et donc il a voulu rajouter un personnage qui était un peu le double, le pendant d'Orphée, et qui était justement que muet. Et juste en évolution chorégraphique, et ce qui était enfantin.
De la danse, du cirque.
Moi,
voilà.
Qui vient plutôt du mouvement de la danse, et j'étais au milieu des chanteurs comme ça, et ça s'appelait pompeusement l'esprit de la danse.
c'est très spirituel, voilà, c'est ça.
Et c'est à la suite de ça que j'ai eu quand même mes premières critiques dans les journaux, qui étaient excellentes. Ah, c'est-à-dire que les gens disaient, Antoine Vitesse a trouvé bon de rajouter dans cet opéra un jeune homme charmant au demeurant, mais qui s'ébroue bruyamment sur la musique avec des ébats d'handicapé mental.
Très flatteur, très bien.
Ah oui, moi j'étais ravi, quoi. Bon. Après, j'ai compris qu'on pouvait vous traiter de n'importe comment, quoi, dans les journaux. Mais c'était bien, au moins c'était remarquable, quoi.
Et ce Alfred Jarry, ça vous parle quand même, quand Bernard Sobel vous le propose, je suppose, enfin la préface là, du bouquin que j'ai,
simple,
de quand c'est...
La préface, c'est quelque chose de différent. C'est un ami
oui,
qui
non,
fait cette édition.
Bien sûr, mais vous appréciez Jarry. Enfin voilà.
Et qui m'a demandé de faire
octobre la préface
parce que j'ai toujours bien aimé Jarry quoi. Je connaissais depuis longtemps. Mais si vous voulez, justement, c'est un cas de figure où j'étais en tournée avec une pièce, une adaptation de L'Idiot. De Dostoïevski par Zeno Bienvenu qui s'appelait L'Idiot L'Idiot dernière nuit. Il faudrait que je me concentre un peu sur mon articulation quand même. Et voilà, qui racontait l'histoire de l'idiot entre juste Mishkin et Ragojine, quoi, les deux protagonistes. À la fin de la pièce, une fois que Nastassia Philipovna est morte. Bon, je vais pas raconter tout le roman.
C'était en 2008.
Ouais, c'est ça.
Bon, en constellation des voix.
Et à ce moment-là, il y a un soir, comme ça, j'étais en tournée, je sais plus, en Lorraine. Et puis, j'ai un coup de téléphone, et c'est Bernard Sobel qui me dit, allô, Denis, c'est Bernard. Alors, voilà, je suis avec l'équipe, on voudrait savoir, est-ce que tu veux jouer Ubu?
Ah, c'est...
Vas-y quoi, Ubu. Oui, Ubu Roi d'Alfred Jarry. Et j'ai dit, bah bien sûr. Bon d'accord, alors on se rappelle. Et c'est une chose que ça se refuse pas quoi.
Ouais.
Quoi, après j'ai compris que j'étais un peu le, si on veut l'enjeu d'un pari. C'est-à-dire que il y avait Bernard Sobel qui avait proposé cette pièce à l'époque pour le créer à Avignon. Et avec cette envie, je pense, de dire merde dans la cour d'honneur, mais on l'a pas joué dans la cour d'honneur, c'est pas grave. Et il y avait tout le staff du théâtre de Gennevilliers à l'époque qui disait mais non, c'est vraiment de la daube. Ubu Roi, c'est un truc de potache. C'est une œuvre collective de potache. Il a dit écoutez. J'appelle Denis Lavant et s'il est d'accord, on le fait. Et voilà. Et donc je suis parti là-dessus avec sur un peu ce quiproquo, mais j'ai pas regretté. C'est épuisant à jouer, mais j'ai pas regretté. Et du coup, c'est drôle parce que effectivement, pour parler de Bernard Sobel, et depuis le temps, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé ensemble, et puis il a plus le théâtre de Gennevilliers, et au niveau justement de l'intérêt, du questionnement aussi sur le choix, sur la rencontre et sur le choix d'un projet à faire au théâtre. Pour moi, il y a plusieurs choses qui concourent. Il y a en fait la rencontre du metteur en scène, il y a le rôle qu'on vous propose, il y a l'œuvre, et puis il y a des fois on est dans une grande perplexité. Il y a des saisons, particulièrement cette saison, où je me disais mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que des propositions multiples, hétéroclites, mais pas très convaincantes? Et puis aussi une chose qui avance par rapport à l'époque dans laquelle on est. J'ai jamais joué pour jouer, quoi. Il y a toujours eu quelque chose, un intérêt, une sorte de résonance, en fait. Une chose de mise en écho de l'œuvre. Et il s'est trouvé, justement, que parmi plusieurs projets, qui me convainquent pas complètement sur la saison à venir. Et brusquement, il y a Bernard Sobel qui déboule avec une pièce énorme d'un type qui s'appelle Grab, qui est un Allemand du début du 19e siècle, et une pièce, mais épique, incroyable, élisabéthaine presque, qui s'appelle Le Duc de Gotland. Et là, j'ai été revoir en plus à la Cartoucherie un spectacle qu'avait fait Bernard Sobel sur le Juif de Malte, de Marlowe. Et brusquement, je me suis dit, ah ben oui, mais ah, c'est oui. Ça. Et brusquement, je me dis, dans une perplexité que j'avais autour de projets à faire ou à ne pas faire, brusquement, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça le théâtre. C'est cette intelligence-là, et c'est cet à propos, et c'est cet artisanat-là. Et je vais pas vous raconter la mise en scène, mais c'était une mise en scène radicalement simple, avec un tréteau, presque quelque chose de très brechtien, si on veut. Je dis, ah oui, c'est là, c'est ça qui m'intéresse. Donc chaque fois, effectivement, c'est faut rester en éveil et en appétit de savoir. Chaque fois, en fait, c'est ça qui peut être tuant à des moments, c'est qu'on est obligé de, comment, préméditer d'une certaine manière l'itinéraire qu'on va faire. Le cap qu'on va prendre d'une année après l'autre, quoi. De construire en amont, quoi. Mais bon, c'est ça qui est drôle.
Il y a une cohérence qui se dégage de tout ça.
À moi d'être fonctionnaire à la Comédie Française, quoi.
Il y a une cohérence qui se dégage de tout ça, malgré tout.
Bah oui, qu'on le veuille ou non, bah oui, forcément.
C'est le style de Denis Lavant, l'histrion, hyper énergique, chorégraphe,
danseur
contemporain.
Il y a la superbe vidéo de c'est pas Radiohead, c'est Thom Yorke qui chante cette chanson de Uncle, ouais, Rabbit Uncle, in Your Headlights. Ouais. J'ai encore revu ça ces jours-ci. Elle est délirante, cette vidéo. Vous êtes percuté combien? 2-3 fois par des bagnoles dans un tunnel. Je suppose que c'est à Londres, c'est en Angleterre.
Exactement.
Et vous grommelez, là, vous êtes...
Je grommelle en plus.
Ouais, et puis, enfin du moins, voilà, là, pour le coup, il y a un style. On voit ensuite, à la dernière image, très christique, vous retirez le manteau que vous portiez avec cette capuche pour écarter les bras. Bagnole vous tamponne, mais elle, c'est elle qui explose. Ouais. Ah, puis la chanson, la voix de Thom Yorke est très agréable. Je pensais la diffuser, mais en fait, non. Ce qu'on va écouter, c'est plutôt Johnny Thunders, extrait des New York Dolls, c'est ça?
Oui, je vous dirai après pourquoi.
Pour ce titre qui est « You can't put your arms around a memory ».
C'est cela.
Ça va nous permettre une petite transition. Ça va nous permettre une transition pour ensuite davantage parler de ce personnage de Rudolf Ehrenstein que vous jouez dans la pièce. Faudrait peut-être un peu rappeler ça. La pièce Elisabeth II. Ehrenstein, c'est ça?
Ehrenstein,
oui. La pièce Elisabeth II qui est donnée au Théâtre des Célestins. Ça a commencé hier, mardi 5 janvier. C'est donné jusqu'à ce samedi 9, à 20h tous les soirs. J'ai cru comprendre qu'il restait encore.
On m'a pas dit.
Thomas Bernard.
Mise en scène
d'Aurore Fatier. Je crois qu'il reste encore des places. Auditeurs, ruez-vous sur la billetterie des Célestins pour essayer de bien aller voir Denis Lavant. Nous écoutons donc ce titre et puis nous continuons. Incroyable,
c'est magnifique.
Il est déjà
2h.
Il est déjà la demi de 2h encore. Allez, encore une demi-heure.
Allez, j'ai le programme musical parce que
toujours pas autrement. Toujours sur Radio Canus, c'est absolument génial. Alors, vous nous avez promis, Denis Lavant, de nous... Enfin, promis, c'est toujours tout de suite un grand terme. Vous avez dit que vous nous indiqueriez pourquoi nous avons écouté à l'instant cet extrait de quel album, je ne sais même pas sur quel album ça se trouve, You can't put your arms around a memory, de Johnny Thunders.
C'est un type avec qui j'ai joué. Johnny Thunders, qui est sur un film de Patrick Grandperret, qu'on avait tourné juste après Mauvais Sang. De Carax. Et Patrick Grandperret qui a fait un film qui s'appelle Mona et moi, où il voulait mettre en scène dans un petit groupe de musique très amateur, vraiment très amateur, un peu musique rock amateur, dont j'étais le manager. Et les gars, ils voulaient profiter du passage de Johnny Thunders à Paris, qui était leur idole, pour qu'ils viennent faire un set avec eux, quoi. Et donc il y a le manager de Johnny Thunders qui leur mettait entre les mains du groupe, en sachant que c'était qu'il était quand même camé jusqu'à l'os, et donc c'était un problème forcément à gérer comme gars. Et c'était un film mais extraordinaire, parce que en tout cas le tournage, et en même temps c'est un ovni complet dans le cinéma. Et moi j'aime vraiment bien ce film parce que c'était improvisé tous les jours. C'était le premier rôle d'un comédien qui a débuté ensuite, qui a été présent dans le cinéma, qui est Antoine Chappet.
Ah oui, oui, oui.
Qui était à l'époque bouquiniste sur les quais, qui a un type que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, c'était jour après jour, on improvisait. C'est-à-dire, on allait boire des bières le matin au café, on était dans un squat et jamais lu un scénario. Et puis il y a Johnny Thunders qui a déboulé là-dedans. La première fois qu'on s'est vu, on était se voir. C'est quand même un très très grand guitariste, un très grand musicien punk de la scène punk, des New York Dolls et des Heartbreakers, quoi. Je sais pas parler anglais, mais des cœurs brisés, quoi.
Mais donc, ce qui vous aurait plu, c'est que c'était du théâtre filmé, c'est ça?
Enfin,
bien sûr.
Mais c'est du cinéma brut, mais,
voilà,
très brut, très humain. Et la première fois, on s'est rencontré, Patrick Grandperret, il nous a mis en présence. Donc j'étais à Londres, et la première fois qu'on s'est vu, on s'est regardé mais comme des animaux étranges, et chacun de son côté, c'est-à-dire Johnny comme moi, on a été voir le réalisateur, on lui dit mais tu veux que je joue avec ce monstre, c'est quoi ce tu vois, vraiment un pur mépris. Et au cours du tournage, sans qu'on échange vraiment un mot, parce que moi je parlais très mal anglais, d'ailleurs j'ai pas progressé non plus, il parlait très mal français, on n'était pas dans la même dope non plus. Moi c'était plutôt l'alcool, lui c'était plutôt la drogue, et quoi, enfin c'est deux drogues dures tout de même. Et en fait, on a, à force de se voir comme ça, de se flairer, on est sorti vraiment copains, quoi, avec un estime mutuelle. C'était une très belle rencontre. C'est pour ça, ça m'émeut beaucoup de l'entendre de temps en temps, et particulièrement cette chanson-là.
Il est visible, ce film, trouvable?
Bah, je pense.
En DVD?
Ouais, je pense qu'il est sorti en DVD.
Il est de 89.
Exact, bah, vous avez bien
entendu. Il y avait Jean-François Stévenin, alors, ou pas?
Oui, il y a Jean-François Stévenin, ouais. On était pratiquement deux comédiens, disons entre guillemets professionnels, et le reste c'était des personnalités fortes, et ça brassait de la vie, de la déconnade. C'était un des très très bons moments, quoi.
Alors, vous parlez de rencontre à l'instant, et, oui, et comment parler de cette rencontre avec, certes, Aurore Fatié, mais également avec Rudolf Ehrenstein, voilà, ce personnage de la pièce Elisabeth II.
Et alors, avec Thomas Bernard aussi.
Oui, voilà, Elisabeth II, c'est le titre.
Et puis avec mes collègues comédiens belges aussi.
Certes,
hein.
Ouais. C'est le titre de la pièce Elisabeth II, mais elle apparaît quand même peu, Elisabeth II. Hein. Le personnage quand même principal, c'est vous. C'est Rudolf Ehrenstein qui est dans un fauteuil roulant assez dur, hein, pour le comédien que vous êtes, que d'être,
c'est ça, la contrainte.
D'être serré dans un...
J'aime bien les contraintes, parce
dans
que
ce
moi,
petit fauteuil roulant.
Il se rattrape pour les salutations, il court dans tous les sens.
Ça,
à faire des bons.
Il y a les fourmis dans les chambres.
Parce que je pars quand même du... je me mets, finalement, une fois que je suis engagé dans un projet, j'y mets de l'énergie. On ne peut pas faire autrement, puisqu'on est en public. On ne peut pas se permettre de décevoir les gens, quoi. Et puis c'est malgré soi, quoi. Il y a une chose qui se met en main. Mais moi, au départ, je pars d'un principe de flemme totale, quoi. C'est-à-dire, si je pouvais en faire le moins possible, je serais content. J'y arrive pas. J'ai jamais réussi. Donc, quand on me donne déjà le projet d'un personnage qui est sur un fauteuil roulant, je dis, oh, c'est cool. Je vais pas avoir à me décarcasser, à courir dans tous les sens. Déjà, c'est un acquis, quoi. Après, on se rend compte que c'est extrêmement physique. Finalement, d'être dans un fauteuil roulant et puis surtout de parler,
et de cracher, de tousser, d'incarner un vieillard de quel âge?
Voilà. De 87 ans.
C'est votre premier rôle d'un vieillard?
Rodolphe Einstein.
Non, parce que dans Holy Motor, j'ai fait un vieillard aussi.
Ah oui, vous avez parlé plusieurs personnages.
Ouais. Bah, j'attaque. Hein. Je commence à assurer mes arrières, quoi. C'est-à-dire ma fin de carrière, n'est-ce pas?
Il y a de la marge. On n'a pas donné votre date de naissance, d'ailleurs.
61.
Ah bon. Mais Minetti, c'est donc pas pour tout de suite, peut-être. Minetti de Thomas Bernhard.
Bah,
mais
c'est pas après, c'est ça pourrait. Tant que c'est de la composition, ça va, quoi.
Alors, restons sur ce Rudolf Einstein, Aurore Fatier, donc.
Je connaissais pas particulièrement Aurore Fatier.
Ni Aurore, oui. Metteur en scène.
Mais Thomas Bernhard.
Mais mon épouse la connaissait, avait vu des pièces, avait sympathisé avec elle, donc je lui ai fait confiance aussi sur cette rencontre-là.
Elle a
et
eu
puis
raison.
Quand même, j'ai elle lu la pièce et je lui ai dit, ah ouais. Ouais, c'est énorme. Et puis en plus, ça me, il y avait quelque chose qui me, une curiosité. J'étais en éveil un petit peu par rapport à Thomas Bernhard que je connaissais très mal. D'ailleurs, on m'avait proposé il y a très longtemps une pièce qui s'appelle La Force de l'habitude. Et puis finalement à laquelle j'ai pas participé. Mais souvent, il y a aussi quelque chose qui se fait dans un écho. Une rencontre, un choix, une détermination à jouer une pièce ou à prendre un texte en main, c'est déjà il y a eu un renseignement qui est tombé en amont, quoi. Et parce que moi quand ça revient, je dis ah oui d'accord, c'est le moment peut-être. Et donc j'ai rencontré Aurore pour ça. En plus, très honnêtement, elle m'a proposé d'aller voir une pièce qu'elle avait mis en scène, une pièce de Harold Pinter qui s'appelle L'Amant, où il y a avec deux comédiens qui sont avec moi dans sur la pièce.
Elisabeth II. Non, très bien.
Elisabeth II. Avec Delphine Bibet notamment.
Incarne Mademoiselle
Zahlinger.
Zahlinger.
Il y a même un Zahlinger, je crois. Il y a les deux L, donc il y a une prononciation.
J'ai été voir cette pièce à qui joue à Namur, et franchement, en principe. Harold Pinter, c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Puis ça peut être mon
cup of tea.
Ça peut être très très pénible. Ouais, c'est le cas de le dire. Ma cup of tea. Puis ça peut être monté de façon très ringarde, presque boulevardière. Et là, j'étais enthousiaste. C'est-à-dire, je trouvais ça très très fin, très très bien défini aussi par rapport à la scénographie, par rapport au jeu des comédiens, avec un humour, c'est-à-dire vraiment quelque chose de caustique,
du burlesque aussi.
Oui, humour noir, mais une sorte d'humour anglais peut-être, en british. Et donc.
On parle de Pinter ou on parle de Thomas Bernhard? Ah d'accord,
la vision que j'ai eue de cette pièce,
oui.
De mise en scène par Aurore Fatier. Et donc du coup j'ai dit banco, je suis partant.
Je prends.
Voilà, et voilà, et je suis pas déçu parce que c'est vraiment une rencontre avec un metteur en scène et une équipe et vraiment une sorte de un rapport de travail que j'aime beaucoup, que j'apprécie parce que ça n'est pas figé. C'est c'est-à-dire ça comme vous disiez dans la pièce, on a élagué un petit peu.
Quelques coupes,
un travail qui est évolutif. C'est-à-dire c'est pas figé avec une idée, on va faire comme ça. Il y a une idée déjà, un concept de scénographie qui est important. Avec je vais pas dévoiler.
Non.
Ah, il faut pas.
Sortez pas.
Stop.
Heureusement qu'on est à la radio.
Non,
heureusement
que
on a vu un geste que vous n'avez pas vu.
Cette idée d'avoir du film. De la projection vidéo, ça je peux le dévoiler quand même.
Oui, ça commence comme ça.
Très grave.
Mes dents, j'ai oublié mes dents.
C'est pas nouveau, mais ça marche très très bien.
Mais avec un rapport de travail, justement, de recherche. En fait, de recherche ensemble, et puis d'ouverture, en fait. C'est pas quelque chose de figé, quoi. Et ça, c'est vraiment important, à mon sens.
À défaut, Gérald, oui,
je le spectacle fait 2h20 quand même, il a été légèrement élagué. 2h15, depuis la version d'un mur. On ne voit pas même passer.
Au départ, il faisait 2h30, et puis ça dépend à quel rythme je vais. Non.
Ouais, c'est...
Parce qu'on peut le faire en 1h10. Hein.
Ah oui, ce serait avec un débit mitraillette. Et est-ce qu'on évoque ? Non, je pense pas. L'intrigue, il n'y a pas grand chose à dire. Néanmoins, c'est personnage.
Quand même, pour situer un peu. Bah, bon, on est à Vienne.
C'est très récent, quoi.
La Vienne conchiée par Thomas Bernhard, comme il fait toujours.
Ouais. Ouais, sur la Ringstrasse, dans un grand appartement bourgeois, même aristocratique, quoi.
Quelle année? 1950, 55, on est, je crois, dans ces... sans doute, il
ça
évoque les nazis.
Aussi bien, ça peut être aussi bien aujourd'hui.
C'est ça qui est
intéressant. Ça peut être aussi bien contemporain. D'ailleurs, c'est
il y a des téléphones mobiles.
Ouais, parce que, comme c'est un vieux bonhomme de 87 ans, en fait, il évoque aussi un passé lointain, mais il est contemporain.
Ils évoquent 36, je crois, la Goudenousse, ou je sais plus laquelle, elle évoque 36, il me semble. Oui, on t'a trouvé, tu t'es fait tirer des coups de carabine par mon mari.
Ah oui,
c'était, je crois qu'à l'époque c'était.
Sur la colline des Cendres, mais je ne suis jamais allé sur la colline des Cendres.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant, on ne sait pas qui ment, parce que moi, quand j'ai lu le texte et quand je vous ai entendu hier, je me disais, ben oui, c'est forcément Rudolf Ehrenstein qu'on doit croire, et pourquoi pas, ne serait-il pas non plus finalement un peu mythomane et menteur
lui aussi. Ouais, voilà, il peut avoir aussi des lacunes.
Il est complexe,
il
le dit, comme personnage.
La mémoire.
Il est complexe,
très complexe.
Parce qu'en plus.
On n'arrive même pas à le lire d'ailleurs.
Mince, reprenons donc, c'est un trio.
C'est plutôt attachant.
La situation, c'est le matin.
À 7h30 même.
Dans l'appartement de Rudolf Ehrenstein, qui est, disons, un vieil industriel. On comprend qu'il travaille qu'il est marchand de canons quand même.
Les mitraillettes, tout ça, ouais.
Et qui a des jambes artificielles, des pieds artificiels. Donc, il est sur un fauteuil roulant.
On le comprend, je crois, c'est un accident à 25 ans.
Un accident
il se fait renverser.
Un ivrogne qui lui est rentré dedans. Ce qu'il dit. Après, on ne sait pas justement qu'est-ce qui est affabule, qu'est-ce qui dit la vérité, qu'est-ce qui est. Enfin, bref. Et donc, il est totalement dépendant d'un majordome.
Richard.
Et quelle classe. Par Alexandre Trocky.
Trocky, c'est.
Absolument.
Mais c'est incroyable.
Une gouvernante. Voilà, exactement.
Mais oui, mais elle est qualifiée dans le facteur d'utilité.
Elle est depuis 42 ans dans la maison Ehrenstein.
L'autre, c'est 25 ans seulement.
Et on apprend au fur et à mesure, en fait, des choses sur ces gens, sur cette petite communauté-là. Et c'est un matin comme les autres, c'est-à-dire que il se réveille et tout va mal, il voit plus rien, il entend plus rien, tout est triste, sauf que ce qui corse la journée, c'est que il a accepté que son neveu qui peut pas encaisser comme toute sa famille d'ailleurs il a accepté que son neveu vienne chez lui voir Elisabeth II. Alors, au départ, on comprend, on dit, Elisabeth II va venir chez lui. Et en fait, tout simplement, on comprend assez rapidement qu'il a son balcon sur la Ringstrasse et que Elisabeth II, qui doit rendre visite à Vienne, elle va passer par là, parce que c'est par là que passent tous les défilés et que passaient y compris les défilés nazis à l'époque. Et donc, ça le met hors de lui dès le matin parce que il pense qu'il va être envahi par une foule de gens que va rameuter son neveu. Toute la vieille aristocratie viennoise, tous les gens qu'il peut pas blairer du tout.
Il a pas tort, c'est le cas.
Et dont il s'est coupé depuis des années, quoi. Et donc, c'est ça, la dynamique de la pièce. Après, il se dit beaucoup de choses.
Ah ouais. Vous dites beaucoup de choses. Parce que, on peut le dire, non, ce vieillard un peu, pas sénile, mais.
Ah, il est pas sénile. Mais qu'est-ce qu'il radote? Il est dans l'opéra, il est très exigeant,
mais
il n'y a plus personne. C'est un vieux fou, il radote pas tant que ça.
Non, il radote pas tant que ça.
Mais naturellement, monsieur, mais c'est Ehrenstein, il reprend les mêmes. Il a les mêmes marottes qui reviennent. Non, c'est
non,
bien,
il a enfin, pas
c'est...
mal. Il a encore. Si on peut dire que ce qu'il a encore quelque chose, il a encore sa tête, quoi. Oui. Il a encore de la tchatche. Il a sa tête, hein. Même s'il est invalide. Il a encore une maîtrise de la parole, quoi. Sinon de la pensée.
Et de sa liberté aussi. Et bon. Il tyrannise un petit peu son entourage immédiat.
Non, on ne sait plus exactement. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas très bien finalement qui manipule qui, en fait. Qui est en dépendant de qui. C'est ça qui est.
L'histoire à la fin de. Enfin, du moins, on peut quand même évoquer un peu ça. Ce personnage de Richard. Oui. Est-ce qu'il serait très honnête? Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation. Oui, une sorte de relation amoureuse avec le docteur Choupiche.
Enfin, oui, n'est-ce pas? Vous savez aussi, tout le monde est au courant.
Mais, enfin, voilà, une question peut-être à vous poser. C'est donc vous. qui est plein de vie, enfin qui est fait hein, vraiment. On a déjà un peu évoqué ça, mais est-ce qu'on pourrait quand même le redire? Comment est-ce que vous avez préparé ce rôle, certes mobile, mais peut-être également et là c'est ce dont nous parlions.
De 87 ans.
Mais et dans son esprit, physiquement. Comment est-ce qu'on se prépare mentalement aussi?
En fait, vous savez. Il suffit de s'asseoir sur un fauteuil roulant, je dirais.
Et ça vient tout seul.
C'est d'accepter, pour moi, c'est d'accepter la contrainte. Pour moi, il y a deux choses pour rentrer dans la peau. Je crois pas vraiment à l'histoire de la peau, quoi.
Acteur bon, studio.
C'est pas grave. Il y a le personnage, quoi. C'est quelque chose de très vague, de très ambigu. Mais il y a deux éléments. Il y a la posture physique, quoi. La dynamique physique. Dans ce cas, elle est à peu près nulle. Où elle est juste dans le haut du corps, et puis il y a la partition. Et en fait, c'est moi je fais énormément confiance à la partition. Dans le cas d'un auteur comme Thomas Bernard ou d'un grand auteur, on peut absolument se fier à ça, à tous les éléments, les renseignements qu'on trouve, et puis la respiration. Et même si c'est une traduction, il y a quand même quelque chose qui est déposé de l'auteur.
Le rythme, la répétition, le style de Thomas Bernard.
Et voilà, et la phrase, la syntaxe, et puis après, on trouve déjà d'être dans une telle hyper oxygénation comme ça de dire un texte en position assise. Pour moi, c'est vraiment une grande contrainte. Donc on trouve la respiration là-dedans, et puis après avec la canne, après avec le fait on trouve on s'imprègne de petites choses de la vieillesse ou de la sénilité, pour peu qu'on ait des parents qui soient un peu âgés. Forcément, on va chercher dans le plus proche de soi. Ben, je sais que j'ai une source d'inspiration qui est merveilleuse, mais sans péjoratif, quoi. C'est ma mère qui a pas le même âge qu'Einstein, mais quand même 84 ans, qui est dans une résidence de troisième âge, maison de retraite, pour ainsi dire, un asile de Vioque. Et quand je lui rends visite, c'est un émerveillement total. Sauf que bon, des fois, elle peut être pénible, c'est compliqué, on a des contentieux. Mais de la voir dans ce contexte, de voir ces vieilles gens, surtout des femmes qui sont très très touchantes et qui sont quand même dans un truc, un ressassement obsessionnel de choses comme ça, et des fois une mauvaise foi totale, et des fois des choses totalement infantiles, de comportement, d'une méchanceté sans nom entre elles, comme une cour de récréation cauchemardesque. Et pour moi, c'est vraiment, il y a tout ce remuement là, quoi, qui m'inspire. Après, il y a tout, de toute façon, comme je dis, c'est du spectacle vivant, donc il y a une base qu'on trouve du personnage en répétition, à force de passer des heures, c'est-à-dire des après-midi entières en fauteuil roulant. Et donc d'accepter cette contrainte-là, et puis le rapport avec les autres aussi, le rapport avec les autres comédiens, des gens qui sont debout, soit qui assis, la manière de s'adresser, d'être dans une contrainte, d'être amoindri comme ça, d'avoir que la parole pour s'en sortir, pour avoir une autorité. Et ben après ça imprime des choses, quoi. C'est à ça à quoi servent les répétitions, au théâtre. Et puis après. Ça continue à évoluer, quoi, par strate, par couche, par expérience de la vie, par rencontre. Il y a tout qui alimente le jeu ou le personnage ou
un organisme, enfin du moins
d'ordinateur qui prendrait des données sans arrêt et puis qui les métaboliserait et puis qui les restituerait à un moment donné le plateau, quoi.
D'où l'expression, que je sais pas si elle est très heureuse, on appelle ça le spectacle vivant, enfin voilà.
Absolument.
Là, c'est exact. Je pense j'ai le texte sous les yeux, il est quand même bizarre ce texte, enfin du moins en traduction on dirait que ce sont des sortes de vers. Il n'y a pas de ponctuation, c'est peut-être à la première lecture, ça va être particulier, non?
Enfin, après, on se demande comment faire avec.
Ah oui, vous parlez de respiration, il n'y a pas, les virgules pour céder.
D'ailleurs, c'est comme ça, on a tâtonné au départ, c'est comment faire avec. S'il fallait suivre vraiment, parce que c'est comme presque une versification, mais sans rime. Sans rime à rien, quoi.
Sans ponctuation.
Une sorte de côté haché, comme ça.
On ne sait pas s'il y a des questions qui sont posées, il faut déduire. Ah, mais d'accord, c'est une question qu'il est en train de poser, ou alors c'est une exclamation, ou alors il s'écrit.
Je pense que c'est assez clair, évident, ou en tout cas c'est ouvert.
Oui.
L'inflexion est absolument ouverte. Mais il y a le texte qui est déposé comme ça, Et donc, c'est, et puis c'est de se demander au départ si on devait le jouer déjà comme quelqu'un, comme il dit, qui a du mal à respirer, qui est.
Vous le faites un peu au tout début, moi, il me semblait. Les premiers mots sont un peu comme ça.
Il y a des moments où ça s'imprime naturellement. Et puis, s'il doit le faire avec une voix complètement amoindrie de graviter comme ça sur une énergie, de pas être dans un réalisme, en fait.
Mais vous en parliez
pas forcément dans un réalisme de l'âge.
Vous en parliez tout à l'heure, ça marche. Hein. Moi, il me semble. Moi, j'y croyais au petit vieux. Hein. Je me disais, il a pris des années, Denis Lavant, depuis Boy Meets Girl. Et puis finalement non. Vous êtes encore un jeune gaillard plein de vie.
Oui, c'est une évocation, quoi.
Ça doit rester subtil, quoi.
De faire croire. Non, subtil, je sais pas.
Moi, j'ai trouvé ça subtil, justement. C'était pas dans la surenchère, c'était une performance physique et on y croit vraiment et sans ça passe trop.
Et puis c'est d'aller chercher l'humain, en fait. C'est ça qu'est le plus passionnant dans ce métier-là.
Sa force et sa misère.
En fait, c'est ça qui me tient aussi dans ce travail de comédien. C'est une introspection de l'humain. À travers soi, à travers des auteurs, à travers des personnages, d'aller chercher du remuement humain, quoi.
Ouais, c'est peut-être anecdotique, mais la scène du petit déjeuner, pour le coup, il est inhumain, non? Il joue d'ailleurs, il balance des bouts d'œufs un peu partout, il y a de l'humain, mais je sais pas pourquoi. Je pense à cette scène en particulier, comme ça.
Excusez-moi, ça, effectivement, il y a un c'est pas la récré totale.
C'est pas toujours pareil.
À un moment donné, de pétage.
Il est
de
défoulé, quoi.
Yeah. Et en fait, quand même, parce que il y a quelques indications de.
Ah, mais là, vous massacrez l'œuf. C'est un
massacre l'œuf, ouais. Mais en fait, il y a un moment donné, il y a Thomas Bernhard, brusquement, il raconte tout ce truc sur le Burgtheater, etc. Et brusquement, et Marc, il s'écrit.
Et l'œuf à la coque, il souffre.
Justement, il a fait toute cette tirade sur le Burgtheater. Et là, forcément, quelque chose qui est venu en répétition, surtout avec les accessoires, parce que c'est marrant quand même d'avoir un peu un œuf à la coque, de pouvoir déconner avec un œuf à la coque. Là, il y a quelque chose de complètement d'explosif qui se passe.
Puis préparé par toutes les allées et venues de Madame Salinger. Oui, le protocole de l'aristocratie viennoise dans un décor assez sobre. Vous parlez de Brecht tout à l'heure. Le décor est très, très beau, très froid. Très, très autrichien, et tout se passe dans
c'est un peu punk
avec les acteurs.
Ce passage
un truc punk, enfin le terme est peut-être un peu excessif, mais burlesque, ce sont les bonnes. Les bonnes,
ah oui, il y a une réussite totale.
Le remontage de la pendule est pathétique aussi.
Le Victor, votre neveu, qui donc, enfin, le neveu de Rudolf Ehrenstein qui incarne l'une des bonnes, c'est quelle légèreté, c'est très aérien.
Une vraie danse.
Et puis à côté, je crois, c'est Guggenheim, il me semble, qui est cette autre bonne un peu ingrate. Je sais pas comment dire.
En fait, ce qui est épatant, c'est qu'il faut dire que tous les comédiens qui m'accompagnent, les comédiens belges, c'est que des grands comédiens. En fait, qui jouent des rôles, généralement des rôles importants. Mmh. Et là, qui sont sur des partitions minimalistes, mais donc qui excellent, quoi. Je suis extrêmement bien accompagné sur, dans ce parcours de Einstein.
C'est notamment, moi, je pense aussi à François Sikivi, c'est ça, le comte Neutz, ainsi que le docteur Holzinger. Oui. Il est un comte Neutz, mais dégueulasse. Enfin, comment le c'est pas dégueulasse le terme, mais c'est un personnage, pas mesquin. Je perds mes termes. Horrible, hypocrite.
Bah,
enfin,
c'est l'aristocratie,
Il fait rire avec ses blagues. Je vois que le temps file totalement et nous n'avons pas prévu encore de CD à passer. Tu avais envisagé du Charlie Chaplin, non?
Yes.
Ou alors, Tessot Gay.
Ah ouais.
Ah oui. Tessot Gay, l'Europe. Mais oui, il est prêt.
D'après une virgule. Verneau, la peau sur les os.
Oui. Une virgule 30 secondes.
Il a collaboré aussi avec.
Eh ben très bien. Donc c'est bien.
Collaboré, quel salaud.
Ce qui m'intéresse, c'est de dire sans tricher ce malheur mou, ce malheur bâton ou pataugeon. C'est plancher monde où tu frottes tes fesses de sous-inspecteur. Au moins, quand on vit ce malheur-là, tout devient clair. Tout ce qu'on nous cachait, il nous laissait croire au moral, au musée, au frigidaire, aux droits de l'homme. Et la vérité, c'est l'homme humilié, l'homme qui ne compte pas. Fini le temps des phrases, la vérité c'est la fin, la servitude, la peur, la merde, comme aux pires époques. On n'en est pas sorti des pires époques. Elle est jolie, leur Europe. Dans la neige, le ventre ouvert parmi des mécaniques défoncées. Ces esclaves qu'on pousse sur les routes à coups de crosse. Et nous autres qu'on a mis à pourrir là, dans ce village de baraques caillonneux et désespérés au centre de cette Europe de neige et de nuit.
Je peux vous le graver, ça, si vous voulez.
Quelle virgule.
Mais je dois l'avoir.
Quelle virgule. C'était l'Europe de Serge Serge Tessoguet. Pourquoi, Gérald?
C'est justement pour une un petit clin d'œil
à l'Europe.
Ah oui.
Et donc tu as lancé à l'instant, Gérald, le terme collaborer à Denis Lavant, c'est peut-être un peu excessif.
C'est vrai, ils sont tellement connotés ces termes.
Non, mais il faut le dire. Vous avez une rencontre avec Serge Tessoguet.
De compagnonnage.
Voilà, vous avez rencontré.
Compagnonné, voilà.
Il y a eu un.
Avec Serge, on avait fait. On avait été rassemblés par Christina Radi, la
compagne
de Bertrand
Cantat,
qui est morte, hélas.
Décédée depuis.
En 2006, c'était voilà. À l'aéronef de Lille.
Et qui est hongroise. Et donc, il nous avait rassemblés autour d'un grand poète hongrois qui s'appelle Attila Joseph. Et c'est un spectacle qu'on a joué quelques fois. Avec Serge, lui à la guitare, moi aux cordes vocales, où je chantais pas, je disais, même je lisais les textes d'Attila Joseph qui sont très très forts, très faut le découvrir quoi. C'est vraiment un grand poète qui s'est suicidé aussi d'ailleurs, qui s'est fait écraser la tête et une main, et la main qui crie sous un convoi de chemin de fer quoi. C'est pas très drôle.
Dick Annorgan écrit une chanson en hommage.
Exact, absolument.
Je voulais la chercher, j'ai pas trouvé.
Qui était dans le spectacle. D'ailleurs que Christina avait passé dans le spectacle. D'accord. Et on a joué, c'est curieux, on a joué ça aussi bien dans des théâtres que dans des lieux de concert. Donc c'était, mais on n'a pas joué
Lille,
on a
Bordeaux,
dû faire 5 représentations.
Rennes.
Voilà. Et il y a un petit livre CD qui existe d'un enregistrement qu'on a fait à Lille.
L'édition Seuil en 2008.
Ouais.
On a le droit de le dire ça.
Il y avait également un autre truc qu'on avait cherché, Gérald, toi et moi, il me semble. John Coltrane, un tombeau pour Coltrane, je crois.
Aussi, ouais. Ascension.
Et c'était quoi ce truc?
Dans les derniers albums de Coltrane.
Oui. J'ai fait ça, ouais.
Ah oui.
Alors, voir en 2009 l'album Ascension, tombeau de John Coltrane sur le label Rogue Art.
Ouais, mais c'est ça qui est marrant, quoi. D'être sollicité pour des projets un peu hors du commun.
Improbable. Hein, ouais.
Et parmi ceux-ci, incongru. D'ailleurs, ouais. que je vous confierai quand même, parce que ça m'a éclaté, moi, ça m'a halluciné quand même. Là, juste avant les fêtes, j'ai été invité par le fils de David Lynch à participer à un film qui s'appelle The Grey House, qui est un film en mi-chemin entre fiction et documentaire, au Texas. Moi, j'ai jamais foutu les pieds en Amérique de ma vie. D'ailleurs, je souhaitais pas particulièrement, mais là, je pouvais pas faire autrement. Et je devais jouer un peintre, Forrest Bess, qui est un peintre du Texas, quoi, de par là, quoi, Matagorda, et qui pêche la crevette. Qui a comme métier, il pêche la crevette au Texas, ça paraît improbable, mais il y a la mer, il y a le golfe du Mexique quand même, et donc, mais vraiment avec un chalutier quoi, un vrai pêcheur de crevettes, et donc ça m'a éclaté, j'ai appris le métier sur le tas, si je puis dire, avec un patron de pêche et à toutes les rudiments du filet, de se lever à l'aube, et j'ai joué ce peintre qui avait comme projet entre autres de devenir hermaphrodite, comme les crevettes qui sont des animaux hermaphrodites comme
ça c'est du scénario.
Mais j'ai pas fait l'opération, j'ai juste pêché la crevette.
Encore une rencontre que vous évoquez. Ce qu'on pourrait dire, oui, auditeur, c'est qu'à 15h01, nous n'allons pas rencontrer pour l'instant Pascal pour le boost des canuts. Donc on va se permettre de dépasser
oui,
un peu.
Tant qu'il arrive.
Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est terrible. Enfin, du moins, c'est terrible. C'est génial. C'est fascinant ce que vous dites. Vous permettez, Denis Lavant, de faire un trait d'union pour Alexis, notamment. On le salue là, s'il nous écoute. Un trait d'union entre le film de David Lynch, Mulholland Drive, et l'autre film de Léos Carax, Holy Motors. Pour lequel certains pensent, donc moi je pense pour l'instant Alexis, certains pensent qu'il y a un pendant. Moi j'ai entendu Alexis me dire qu'il estimait que Holy Motors c'était le Mulholland Drive français. Peut-être qu'on pourrait renverser la chose et dire que Mulholland Drive c'est le Holy Motors américain.
Ah je sais pas, j'ai pas vu.
Vous permettez de faire un lien entre les deux. Mulholland Drive c'est le, je sais pas, cinquième, sixième film de David Lynch juste après Lost Highway et avant. Il a pas tourné depuis, non il me semble. Non je crois pas. Je crois pas qu'il ait tourné depuis.
Pas.
15h02, on discute encore ou c'est est-ce qu'on a tout dit sur cette Elisabeth II de Thomas Bernhard qui est mise en scène jusqu'à ce samedi 9 janvier au Théâtre des Célestins, c'est à 20h. Est-ce qu'il y a des rencontres en fin de spectacle? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part pour bavarder si le public vous trouve absolument saisissant ou génial?
Moi je suis toujours là pour le spectacle.
Ils peuvent vous retrouver à la sortie des artistes
tranquillement, ouais. Au bar du théâtre. Moi, c'est le moment de la journée où je suis le plus disponible.
Ah bon, oui.
A priori, quoi. Si ça s'est bien passé.
Mais vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas un peu
sur le moment, non.
Éprouvé par cette non, au contraire.
Ah non, ça fait 2 heures d'écart que je suis assis quand même.
Ah ouais.
Vous vous rendez compte.
Oui, mais on l'a dit justement que paradoxalement, il y a un effort physique.
Ah, il y a un effort physique. Mais quand même, juste après un spectacle en général, on bénéficie de l'énergie qu'on a mis en branle. Donc après, quelques heures après, on peut s'écrouler de fatigue, mais dans l'immédiat, c'est le moment de la journée où on est le plus en forme, justement.
Ça peut encore aller.
De croisière.
Ouais.
Petite question, votre boulimie de création, de rencontre, d'art comme artisanat vivant, d'où vient cette boulimie vitale, justement? Et que faites-vous de tous les textes que vous ingurgitez? Parce qu'il faut dire que le texte est très très long. Qu'est-ce qui deviennent ces textes?
Je ne sais pas. Je sais pas, bah, y en a
vous
que
en
je...
souvenez, vous les gardez en bribes, en mémoire.
Il y en a que je reprends, il y en a qu'il faut rafraîchir, il y en a que je garde, que j'apprends pour le plaisir aussi. Il y a certains poèmes que j'apprends, que je connais depuis très longtemps. Et il y en a vraiment que j'ai appris par pur plaisir, certains textes. Après, les textes de théâtre, bah, une fois qu'on en a plus l'usage, c'est pas qu'on les évacue, mais on les met dans... je sais pas comment ça marche. La mémoire, de toute façon, c'est un phénomène qui est fascinant. Parce que le premier plus long texte que j'ai appris, à un moment donné, c'est un texte de Coltès, c'est La nuit juste avant les forêts, qui avait été mis en scène par Christian Frédéric à Bayonne. Et c'est un texte, c'est quoi, 63 pages de comme ça, de filet sans point, quoi, comme une longue phrase. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais le lire, je vais garder une anti-sèche, quoi. Et puis finalement, on se rend compte, ouais, il y a la capacité, quoi, il y a quelque chose qu'on peut
muscler,
pas muscler, c'est-à-dire qu'on peut aménager. C'est de l'aménagement, parce que c'est pas de la mémoire scolaire, c'est pas de la mémoire par cœur, bien que ce soit justement par cœur, c'est-à-dire c'est par le cœur qu'on retient les choses et par la compréhension et par tous les supports possibles. Et après ça, bah, soit on oublie. Et puis après, il suffit souvent de les réactiver. Il y a un texte qu'on a appris même il y a longtemps, il y a moyen de le reprendre, quand on est familier, de le reprendre. Mais là, si vous voulez, cet automne, j'avais 3 textes en même temps. J'avais Elisabeth II, qui est commun, j'avais Les Fourberies de Scapin,
de
l'art joué.
Ah
bah, et puis j'avais les alligators de... Faire danser les alligators sur la flûte de Pan de Céline, qui a aussi un texte, là c'est un pur solo de 1h40. Et ça circulait entre ces 3 textes, et je ne sais pas comment, quoi. Ouais. Mais sans confusion, quoi. Peut-être de la confusion de rythme, de personnalité, parce que c'est quand même à partir de moi que je fais le truc. Mais c'était hyper simple pour moi, je vais dire, de dire, là je joue ça, là je joue ça, et j'avais les 3 textes en même temps. Donc c'était un peu de la schizophrénie, mais c'était pas mal, quoi. Voilà, ça va, j'en ai plus qu'un là. Pendant un mois, quoi, j'ai plus qu'à me soucier d'Elisabeth II, et puis après Scapin, quoi.
Ah ben voilà.
Et Scapin, il faut que je remette en train, par exemple.
Ouais. Je vous propose, auditeurs, pour les 2 raisons suivantes, celle tout d'abord de l'arrivée de Pascal. Le Blues des Canuts va donc commencer incessamment, et puis surtout, puisque les Fourberies de Scapin seront données au Théâtre des Célestins, je crois, du 30 mars au 10 avril. Eh bien, je vous propose, auditeurs, de poursuivre la conversation le mercredi, je sais pas, le mercredi 3, 4, 5 avril. Denis Lavant sera de retour, forcément. Et nous pourrons encore redemander, par exemple, je voulais vous questionner, là, est-ce que vous vous rappelez encore cette réplique, là, c'est l'une des premières du Père Ubu. De pas ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content, on le serait à moins, capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'aigle rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous faire de mieux? Eh bien, nous aurons une réponse éventuellement donnée une prochaine fois par Denis Lavant. Pour l'instant, il est temps de saluer tout le monde.
Il est temps d'aller voir Elisabeth II à 20h au Théâtre des Célestins.
Jusqu'au samedi 9 janvier.
Et de consulter le blog de Radio Canut pour avoir toutes les informations concernant Denis Lavant.
Concernant tout, concernant le Théâtre des Célestins, il y a également du Coltès qui sera donné au Théâtre des Célestins. Je crois bien que c'est Didier Bezas qui jouera, c'est la nuit, non pas la nuit avant les forêts, c'est le retour au désert.
D'accord.
Ce sera donné, je sais plus, avril, on en reparlera. Il y a également Opéra à venir, Lady Macbeth de Mzinsk, enfin il y a plein de choses. Consultez le blog pour voir tout ça. Denis Lavant, on vous dit merci beaucoup.
Merci.
Et vous nous dites santé. Ouais, bonne année auditeur. C'est très exact. À bientôt. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canut, le jazz, le blues des Canuts à venir, n'importe quoi. Et puis ensuite, méga combi, tout un tas de trucs. À la semaine prochaine, auditeur. Salut.